Chasser les rêves et les bêtes de mon corps et de ma tête. Ouvrir mes yeux par l'intérieur, avec mes mains battre ma peur. L'attraper par le collet, la tuer d'un coup de balai. Knockout, je vous mets knockout. Tous mes ennemis, je vous anéantis. Knockout, je vous mets knockout. Même mes amis partis. Knockout, je vous mets knockout. Tous mes ennemis, je vous anéantis. Knockout, je vous mets knockout. Je m'en fous, je te veux la vie. Déchirer toutes mes chemises, les sortir de ma remise. M'habiller en rose bonbon et d'une robe sans bouton. Lancer les clés par la fenêtre, ouvrir les portes et les loquets. Franchir les murs sans me blesser, embrasser l'air, le caresser. Knockout, je vous mets knockout. Tous mes ennemis, je vous anéantis. Knockout, je vous mets knockout. Même mes amis partis. Knockout, je vous mets knockout. Tous mes ennemis, je vous anéantis. Knockout, je vous mets knockout. Même mes amis partis. Knockout, je vous mets knockout, même mes amis partis. Knockout, je vous mets knockout, tous mes ennemis, je vous anéantis. Knockout, je vous mets knockout, même mes amis partis.
Catherine Major et de son album Par-dessus bord, c'était la pièce Knockout.
La voix Yama, la diva en ballerine, c'est la chronique d'Hugo Dumas. Pincez là quelqu'un, tel que prévu depuis plusieurs semaines. La timide mais talentueuse Yama Laurent a été couronnée hier soir plus belle voix du Québec avec 60 % du vote populaire. À l'annonce du résultat par Charles Lafortune, la chanteuse de 27 ans née en Haïti n'a pas bronché et n'a pas versé de larmes comme sonnée par la nouvelle. Son discours a été succinct, quasiment chuchoté. Pour elle, cette victoire, c'est comme une adoption par les Québécois. En 6 saisons de La Voix TVA, c'est la première fois qu'une concurrente née à l'extérieur du pays se sauve avec les plus grands honneurs. D'ailleurs, les 4 finalistes d'hier avaient tous des origines diverses, soit arménienne, Myriam, soit dominicaine, Jonathan, soit haïtienne, Yann et Yama. Les 5 autres éditions de La Voix ont toutes été remportées par des artistes dits, entre guillemets, « de souche ». Depuis son impressionnante audition à l'aveugle « Forever Young » de Bob Dylan, Yamaha, et sa voix basse ont conquis le cœur des téléspectateurs. Son histoire personnelle difficile a également remué ses fans. Survivante du tremblement de terre de 2010, elle a traversé une enfance difficile avec son père, dont elle parle très peu. Elle a plus tard renoué avec sa mère, qui habite toujours en Haïti et qui lui a transmis hier un message d'encouragement par vidéo. Encore ici, Yama a encaissé le choc de voir sa maman sans scier. Yama Laurent, qui a entamé des études de médecine à l'Université de Santiago, en République dominicaine, est l'anti-star par excellence. Elle fixe souvent ses ballerines et soutient difficilement le regard du public. Des ballerines, on parle ici de chaussures. Sa timidité extrême pourrait par contre devenir un gros obstacle si elle ne la dompte pas. Le parcours de Yama a été sans faute à la voix, de Let It Be en duel avec Kelly Bado, en passant par Il s'aime de Daniel Lavoie et A Change Is Gonna Come, elle n'a jamais craqué sous la pression. En choisissant Garou comme coach, parce que ses chansons l'ont accompagnée dans des moments de turbulence, Yama lui a offert un premier gain à sa première participation à la Voix québécoise. La chanson que Garou a composée pour sa protégée, Un peu de nous, c'est le titre, renfermait des sonorités rétro intéressantes. Yama l'a bien maîtrisée, souvent sans accompagnement musical, mais n'a pas été aussi touchante et vibrante que d'habitude. Elle a gagné quand même. Télévision, c'était la dernière de Tout le monde en parle hier soir. Richard Therrien intitule sa chronique « Un tramway nommé Régis ». Toujours franc, parfois bourru, mais aussi rieur et lançant des formules efficaces, Régis Labeaume a certainement livré un des segments les plus divertissants de cette dernière émission de la saison de Tout le monde en parle hier. L'autre politicien, Andrew Scheer, n'a peut-être pas fait le plein d'électeurs, mais il s'en est tout de même sorti honorablement. « On est rendu là », affirme le maire Labeaume à propos du système de transport structurant. Il balaie du revers de la main les accusations de l'opposition d'avoir caché ce projet aux électeurs durant la campagne et rappelle que 70 % des gens ont voté pour le transport structurant. « L'opposition fait ça à l'américaine. Nier l'évidence », tranche-t-il. Au sujet du troisième lien, le maire de Québec a répété qu'il faudrait qu'on lui prouve que c'est bon pour sa ville. À ceux qui trouvent que c'est long de passer d'une rive à l'autre, il a eu ce message « Faudrait qu'il vienne à Montréal. Tout à l'heure, ça m'a pris 2 heures Québec-Montréal, puis 2 heures Montréal-Montréal. On a fait 1,2 million la passée », a rappelé le maire au sujet du centre Vidéotron, plus rentable pour la ville que pour Québécois. « Ça chipote partout. On a fait un bon deal », se réjouit le maire malgré le fait que sa ville n'a toujours pas les Nordiques. « On peut vous vendre les Canadiens si vous voulez », lui a lancé Danny Turcotte. La meilleure réponse du maire, « On a déjà un club junior, ça va aller ». Malgré la tuerie de la mosquée, il ne veut pas de centre de prévention de la radicalisation à Québec. Pas sûr que c'est efficace. « Faut pas créer quelque chose qui n'existe pas », dit-il au sujet de la radicalisation. À propos des possibles motivations d'Alexandre Bissonnette, l'auteur de la tuerie qui a plaidé coupable, « On fait face à un problème de santé mentale ». Ça fait qu'on ne comprendra jamais ce qui s'est passé dans la tête de ce gars-là, dit-il, appuyé par Denis Arcand. Le cinéaste s'indigne qu'on puisse qualifier les gens de Québec d'anti-musulmans et prévient de ne pas faire de lecture sociologique de quelqu'un qui saute une coche. La présence d'armes a fait la différence. D'ailleurs, M. Labeaume ne s'explique pas que Bissonnette ait pu en avoir 3 en sa possession. On doit questionner la disponibilité des armes, croit-il, la carte du fou du roi. Il me semble qu'après tous ces efforts, la moindre des choses serait que vous ayez enfin un tramway nommé Régis. Premier chef conservateur à se présenter sur le plateau de Tout le monde en parle, Andrew Scheer s'en est sorti vivant sans jamais perdre son sourire. Guy Lepage a rappelé d'emblée que M. Scheer avait voté contre l'avortement et le mariage entre personnes de même sexe. Mais le chef a répété qu'il ne rouvrirait pas ces débats s'il était élu. « Je suis concentré sur les enjeux qui nous rassemblent », a dit M. Scheer en tournée de consultation au Québec en vue de sa nouvelle plateforme électorale. Il nie la rumeur voulant qu'il possède une grande collection d'armes. Oui, il chasse le canard parce qu'il vit en Saskatchewan, rien de plus. Il reconnaît avoir déjà fumé du pot. Voudrait-il recriminaliser le cannabis s'il était élu? Il attend de voir les résultats de la loi avant de décider. De la même façon, il n'a pas voulu se prononcer clairement sur une éventuelle taxe Netflix. Maxime Bernier l'a accusé d'avoir enrôlé de faux conservateurs chez les producteurs laitiers pour gagner la course à la direction du parti. « Je peux vous assurer que Maxime ne serait jamais mon ministre de l'Agriculture », a blagué le chef. Danny Turcotte en a profité pour inviter officiellement Andrew Scheer au prochain défilé de la fierté à Montréal en août, ce qui serait aussi une première. L'idée que tout ce qui régit le cinéma se compte en chiffres rend Denis Arcand malade. « On parle des films en fonction de leur box-office, pas de leur qualité », déplore le réalisateur. « Ça pourrit toute notre vie. C'est la même chose pour les livres, c'est la même chose pour tout. » Son nouveau film, « La chute de l'Empire américain », illustre que les valeurs économiques ont remplacé les judéo-chrétiennes. « Tu crèves l'écran », a dit Guilla à Marie-Pierre Morin, qui fait ses débuts au cinéma dans le rôle de l'escorte la plus dispendieuse de Montréal. « Cette fille-là, au cinéma, ce serait écœurant », s'est dit Denis Arcand en la voyant pour la première fois en marge d'un tournoi de tennis. Arcand assume son côté « casseux de party » depuis le confort et l'indifférence dans lequel il avait prédit que la souveraineté ne se ferait jamais. « Vaut mieux savoir les malheurs qui s'en viennent plutôt que de rêver », plaide-t-il. Le cinéaste n'a pas vu l'adaptation théâtrale du déclin de l'Empire américain parce qu'il craignait de ne pas aimer ça et de devoir s'expliquer. Aucune once d'arrogance chez la boxeuse Marie-Ève Dicker, qui a remporté sa ceinture de la North American Boxing Federation, NABF, au terme du combat le plus difficile de sa carrière et le plus sanglant. Sa mère venait d'apprendre qu'elle souffrait d'un cancer peu de temps avant son combat. Une mauvaise nouvelle qui l'a stimulée à se battre pour elle. Sa mère a recouvré la santé depuis. C'est parce qu'elle était fan des Tortues Ninja qu'elle s'est d'abord intéressée au karaté. La discipline n'étant pas inscrite aux Jeux olympiques, elle a changé pour la boxe dans l'espoir de s'y rendre. Une blessure l'en a empêchée et elle a plutôt fait le saut chez les professionnels avec le succès qu'on connaît. La famille Molson, ça va pas vendre, il n'y a pas assez de sexe, a dit Eric Molson à sa belle-fille Hélène Antoniou, qui signe la biographie Le retour à la bière et au hockey, l'histoire d'Eric Molson. La femme d'Andrew Molson a eu l'idée de lancer cette bio pour distraire son beau-père et démontrer qu'on peut réussir tout en restant intègre. Télévision, Marie-Pierre Morin a redescendu l'escalier vêtue d'une nouvelle robe pour accompagner son co-animateur du 33e gala artiste, Jean-Philippe Dion. Celui-ci compte sur la première pour défaire un peu son image d'animateur parfait. « Ma relation avec le public n'a pas été simple », affirme l'ancienne « bitch » entre guillemets d'Occupation Double, aujourd'hui deux fois nommée au prochain gala. « On va battre Bobino », s'est exclamé Danny Turcotte pour souligner la longévité de « Tout le monde en parle ». La grand-messe sera de retour pour une 15e saison le 23 septembre sur Ici Radio-Canada Télé.
Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there if you get lonely. Give this song another listen, close your eyes, listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side. Oh, it's what you do to me, oh, it's what you do to me. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good, we'll have the life we knew we would, my word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall, we'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what
A thousand miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Lala, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you.
Formation américaine Plain White Tees et la pièce Hey There Delilah.
Sujet libre, épuisé de devoir se battre pour recevoir des soins, tétraplégique après une chute, elle demande à être traitée comme un être humain. Une femme de Saint-Augustin devenue tétraplégique après un accident d'équitation est épuisée de devoir se battre continuellement pour obtenir des services à domicile. Elle lance un cri du cœur pour rappeler au système qu'elle est une personne humaine et non qu'un numéro de dossier, c'est dans le Journal de Montréal, sous la plume de Pierre-Paul Biron. Sophie Laflamme a peut-être perdu l'usage de ses membres après une chute à cheval en 2012, mais elle n'a rien perdu de sa fougue et de sa vivacité. « Je suis pas mal certaine que j'ai encore toute ma tête », lance-t-elle avant de laisser échapper un éclat de rire. Ces petits moments de légèreté sont toutefois rares dans le quotidien de la femme de 43 ans qui vit dans un appartement adapté installé au sous-sol de la maison familiale. Devant lutter depuis son accident pour ne pas être oubliée par le système, Sophie Laflamme n'en peut plus de la pression qui s'accentue sans cesse. Même si elle embauche ses propres préposés pour la majorité de ses besoins, la femme doit parfois se tourner vers le CIUS, Capital National, pour des besoins périodiques, ce qui s'est compliqué récemment. Un message sur fond de menaces laissé sur sa boîte vocale la semaine dernière aura été la goutte qui fait déborder le vase. Le CLSC m'annonçait à 15h30 qu'il coupait tous mes services à partir du lendemain, jusqu'à ce que j'aie un lève-personne. Selon eux, même si ça fait 6 ans qu'on fonctionne sans, je mettais maintenant les préposés en danger. Soupire Mme Laflamme, qui assure n'avoir jamais été avisée par le passé de la moindre blessure subie par un de ses aides-soignants. Même si la direction est revenue sur sa décision en soirée et qu'elle a reçu ses soins le lendemain, c'est avant tout les impacts psychologiques de ce continuel yo-yo administratif qu'elle veut dénoncer. « Je fais quoi, moi, demain matin, si personne ne vient me lever? » J'ai l'impression que si ça dépendait seulement d'eux, je serais couchée 24 heures sur 24 ou je serais placée en résidence, déplore la femme qui a choisi de dénoncer malgré la peur des représailles. Depuis peu, elle précise que le CIUS ou le CIU3S a augmenté sans raison la pression sur sa famille. Inspection de sa douche adaptée, demande de fournir des couvre-chaussures aux préposés, diminution au minimum du nombre de transferts, restrictions vestimentaires. Sophie Laflamme se sent de plus en plus étouffée par un système lui-même à bout de souffle. Une préposée m'a déjà dit que c'était trop difficile de m'enlever mes jeans. Donc, on m'a demandé d'être en pyjama pour mes soins, ce qui veut dire passer mes journées en pyjama. Mais je n'ai plus rien, moi. J'ai tout perdu, sauf ces petites choses-là, comme le fait de pouvoir encore m'habiller comme je veux. Et on veut me l'enlever. C'est ça qui n'est pas humain, s'indigne-t-elle, décidée à défendre sa dignité. La direction du CIU 3S Capitale Nationale assure qu'un suivi serré est fait de ce dossier, mais que les décisions prises le sont pour la sécurité des employés. « C'est une obligation pour l'employeur que nous sommes », explique la porte-parole Annie Ouellet. Comme si ce n'était pas assez, le père de Sophie Laflamme est en fin de vie à la maison Michel Sarrazin. La mère de Sophie, qui court entre les besoins de sa fille et ceux de son mari, est également à bout de souffle. Est-ce qu'on peut nous laisser vivre ce deuil sans rien changer? C'est tout ce qu'on demande. Ce n'est pas le moment, implore Nicole Laflamme. Je suis épuisée de me battre pour ça parce que j'ai à me battre pour beaucoup d'autres choses dans ma vie, ajoute Sophie Laflamme, qui ne demande qu'à être considérée avec respect. Je me sens comme un fardeau, une complication pour eux, un paquet de troubles. Ce n'est pas normal. Déclarant être au fait des éléments particuliers du dossier, la direction du CIU 3S indique que des rencontres sont prévues avec la famille pour assurer la communication. Déjà largement affligée par son handicap, Sophie Laflamme doit gérer l'embauche des préposés aux bénéficiaires privés qui l'accompagnent au quotidien, un cauchemar dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Le CIU 3S a lui-même de la difficulté à recruter avec un salaire et des conditions avantageuses. « Imaginez, moi, ce que je dois faire pour en trouver », lance la femme, installée dans son fauteuil roulant. Durant l'année scolaire, elle réussit habituellement à trouver des étudiants qui sont prêts à faire quelques heures à gauche et à droite pour l'aider. Mais quand la fin des classes arrive, les bris de service sont plus nombreux et causent de sérieux maux de tête à Sophie Laflamme et son entourage. Les filles sont en stage, elles se trouvent des emplois, retournent dans leur région, c'est normal, mais c'est difficile pour nous. Et on ne se sent pas supporté, explique-t-elle. Devant se tourner vers le CIUS 3S ou le CIUS, point, pour combler ses trous à l'horaire, Mme Laflamme affirme qu'on l'a fait sentir coupable de ne pas parvenir à trouver des employés. « Quand j'ai dit qu'on avait de la difficulté à recruter, ils m'ont dit qu'il faudrait que je me penche là-dessus », se rappelle Mme Laflamme, excédée par cette réponse. « C'est toujours à nous à faire les concessions. Jusqu'à récemment, les bris de service étaient rares parce que j'avais une bonne banque de filles. Mais là, on nous blâme d'avoir des bris de service. On gère quasiment une mini-PME. Mais ce n'est pas encore correct », soupire la femme qui ne sait plus vers qui se tourner tellement il est difficile d'avoir des services. L'histoire de Sophie Laflamme, en quatre lignes, une chute à cheval l'a rendue tétraplégique, accident survenu le 11 avril 2012, moelle épinière endommagée, elle a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes. Les filles du roi et leurs millions de descendants, c'est Isabelle Porter dans Le Devoir qui signe cet article. La contribution des filles du roi au pool génétique des Québécois s'élève à 9 % selon une recherche qui sera présentée cette semaine au congrès de l'ACFAS à Saguenay. Et parmi ces filles du roi, celle qui a le plus de descendants n'a eu aucun enfant en Nouvelle-France. Veuve, Anne Lemaître a quitté Rouen pour la Nouvelle-France avec son fils, Nicolas Roy, et ses deux petites filles. Et ses deux petits-fils, dis-je bien. Une fois débarquée, elle n'a pas eu d'autres enfants, mais les chercheurs lui ont trouvé plus d'un million de descendants. Son impressionnante descendance est due à un seul enfant, contrairement à d'autres femmes qui ont pu avoir une dizaine d'enfants et dont les lignées se sont éteintes. Note Sophie Desportes, qui a étudié le sujet dans le cadre de sa maîtrise à l'Université du Québec à Chicoutimi. La jeune femme fait partie de l'équipe de recherche du fichier Balzac, une immense banque de données démographiques créée dans les années 70, par le sociologue Gérard Bouchard. Grâce à Balzac, les Québécois sont l'une des populations les mieux caractérisées à l'échelle mondiale, note le directeur du projet, Simon Gérard. Depuis 45 ans, on y a compilé pas moins de 3 millions d'actes de mariage de toutes les paroisses du Québec. On a des gens qui prennent des photos des registres paroissiaux. Ils lisent les pattes de mouche des curés, retranscrivent chacun des actes de mariage à l'informatique, puis ceux-ci sont intégrés à une plus grande base de données. Aujourd'hui, on a pratiquement 90 % des mariages qui ont eu lieu sur le territoire québécois dans une paroisse catholique. Ainsi, pour faire sa recherche sur les filles du roi, Sophie Desportes a utilisé une banque de données de 60 000 généalogies du 20e siècle en la croisant avec les lignées de 727 filles du roi. On a pris un corpus généalogique contemporain qui est composé de l'ensemble des individus qui se sont mariés dans Balzac en 60. À partir de ce corpus généalogique-là, on a pu retracer les ancêtres et identifier les fondateurs immigrants et donc les filles du roi. C'est à partir de ces analyses-là qu'on a pu estimer la contribution génétique totale des filles du roi au pool génétique des Québécois à 9,35. Le pool génétique ou génique renvoie à l'ensemble des gènes portés par les individus d'une population à partir des immigrants de cette population jusqu'à leurs descendants aujourd'hui. La recherche a en outre révélé que certaines filles du roi se démarquent par leur nombre de descendants et le nombre de généalogies auxquelles elles sont rattachées. Une dizaine de femmes sont dans plus de 30% de nos corpus contemporains, signale Sophie Desportes. C'est toujours impressionnant de se rendre compte qu'un petit groupe de femmes a contribué à une telle proportion. Elles s'appellent Catherine Fièvre, Martine Ier, Louise Gargotin, René Rivière et André Remondière. Des noms de famille qui peuvent sembler colorés, mais seraient devenus aussi communs que Tremblay, Côté, Gagnon si la Nouvelle-France avait décidé de donner aux enfants le nom de leur mère. Si ça avait été le cas, le nom de famille le plus courant aujourd'hui serait Langlois et non Tremblay. Il y aurait en outre davantage de Gargotin que de Bouchard et plus de Riton que de Morin. Au-delà de leur intérêt historique, ces recherches recèlent un intérêt dans le domaine de la génétique et de la santé, note le professeur de biologie et directeur de projet Balzac, Simon Girard. On sait que certaines maladies viennent d'une fille de roi, du roi. Ça nous permet de voir d'où viennent les mutations, qui les a introduites en terre de Nouvelle-France, mieux comprendre la dynamique de dispersion de ces maladies-là. Ça va aussi nous aider à comprendre comment intervenir. Dès lors, les campagnes de dépistage de certaines maladies pourraient être mieux ciblées, poursuit-il. Le colloque sur le fichier Balzac s'étale sur 2 jours et compte plus d'une douzaine de présentations, dont l'une traitera des migrations bretonnes à l'origine de l'effet fondateur de la fibrose kystique au Québec. L'événement se déroule dans le cadre du congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, qui a lieu toute la semaine à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et voilà, c'est tout pour le quotidien des quotidiens de ce lundi 7 mai. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une agréable journée et je vous invite aussi à rester avec nous puisque l'hyperactualité commence dans un petit moment. J'aurai le plaisir d'avoir avec nous Maxime Despomerleau pour une chronique culturelle. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical.